It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
On est en direct. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur CNews. On se met en place sur le plateau à 22h28. Très heureux de vous retrouver. Mise en place mouvementée. Bonsoir, mon général, général Jacques Maurel. Merci d'être avec nous ce soir pour décrypter l'actualité. Évidemment, l'actualité majeure du jour. Elle nous renvoie à cette conférence de presse du procureur d'Aix-en-Provence qui en a dit un petit peu plus sur l'enquête en cours autour de la disparition du petit Émile. Vous êtes général de gendarmerie, ancien patron de la section de recherche de Versailles. Merci d'être avec nous ce soir. On entendra d'y voir plus clair également avec Sandra Buisson ce soir. Bonsoir, chère Sandra, journaliste au service police-justice de CNews, bien sûr. Nathan Dever est parmi nous, écrivain, philosophe. Merci d'être présent de l'autre côté de la table pour cette émission jusqu'à minuit sans interruption. Je le rappelle, François Calfon, conseiller régional, Parti Socialiste. Merci d'être là. Jean-Sébastien Ferjeux, directeur d'Atlantico. Bonsoir, Jean-Sébastien.
Bonsoir.
Et bonsoir à Raphaël Steinville de la rédaction du JDD. Bonsoir. Cher Raphaël, on ne peut toujours pas privilégier une hypothèse plus qu'une autre. Donc, pour déterminer les causes de la mort du petit Émile, c'est ce qu'a rappelé aujourd'hui le procureur de la République d'Aix-en-Provence qui donnait sa première conférence de presse aujourd'hui, deux jours après la découverte d'une partie des ossements du petit garçon. Les investigations s'annoncent donc encore longues pour faire la lumière sur ce qui est arrivé à cet enfant de 2 ans et demi. Le résumé de cette conférence de presse avec Augustin Donadieu et on décrypte tout cela.
3 jours après la découverte d'ossements du petit Émile, le procureur de la République d'Aix-en-Provence a annoncé que des vêtements de l'enfant ont été retrouvés.
Le long de ce ruisseau ont été retrouvés par les enquêteurs hier, en contrebas du chemin, à environ 150 mètres du lieu de la découverte du crâne, certains vêtements que portait Émile le jour de sa disparition, c'est-à-dire un t-shirt, ses chaussures et une culotte.
Cette zone, escarpée et située à 1,5 km du village, est accessible selon le procureur après 25 minutes de marche pour un adulte. Mais malgré cela, les enquêteurs n'écartent aucune piste.
Certains d'entre vous certainement connaissent des enfants qui sont susceptibles de marcher longtemps, d'autres sont susceptibles de marcher moins longtemps. Ça, je ne sais pas quelle était sa capacité à la marche.
Avant la découverte du crâne par la randonneuse, la zone avait été fouillée par les gendarmes lors de nombreuses battues. Mais aucune trace de l'enfant n'avait été repérée.
Je ne peux affirmer aujourd'hui que chaque mètre carré a été foulé par un membre des équipes de recherche et d'investigation, aussi loin soit-elle allée.
Selon les premières analyses du crâne, ce dernier présente des petites fractures, mais aucun traumatisme antérieur à la mort de l'enfant. L'enquête va donc se poursuivre. La randonneuse, elle, a été mise hors de cause après vérification de ses déclarations.
Un premier mot avec vous, mon général, général Jacques Maurel. Les éléments dévoilés cet après-midi sont encore très minces, on l'a tous compris. On apprend donc que des vêtements dispersés ont été trouvés. C'est l'une des infos du jour, sans savoir les vérités qu'ils vont pouvoir livrer, puisque les analyses scientifiques vont donner ces réponses. Comment est-ce que vous décodez, d'une manière très globale, dans un premier temps, cette conférence de presse du jour de la part du procureur de la République ?
Si vous voulez, il a amené quand même des précisions qui sont importantes, puisque la présence du crâne et des dents retrouvées par cette joggeuse, c'était quand même assez intriguant. Au bord d'un chemin où même le maire de la commune disait être passé quelques semaines avant, il n'y était pas. Un certain nombre de gens circulent sur ce chemin, ils l'auraient vu. Donc il fallait penser que soit quelqu'un était venu apporter ça comme une offrande le jour de Pâques, ce qui paraissait quand même...
C'est la première idée que vous êtes faite.
Un rite un peu bizarroïde, quoi, hein, parce que à proximité, pas très loin de l'église où les parents se recueillaient, où ils demandaient un miracle qu'on leur rende leur enfant. Enfin, ça pouvait donner une présentation, si vous voulez, anormale. Et là, malheureusement, le fait que ça se confirme avec ces découvertes, non seulement l'Institut de recherche y confirme avec certitude, il y a pas de doute, c'est bien l'ADN de l'enfant. Et là, maintenant, les vêtements qui ont été retrouvés sont ces vêtements, les chaussures. Apparemment, il n'y a pas d'autres ossements pour le moment, mais on est dans une région où il y a des animaux en liberté, des rapaces, renards, peut-être des chiens, et il est vraisemblable que le corps était en hauteur, que cette tête, elle a dévalé, soit par le ruisseau là, qui se transforme en torrent, enfin, il y a des mouvements de terrain. Bon, ça semble s'orienter quand même vers un accident possible. Il n'y a que la distance qui interpelle un peu par rapport
à... Puis certains détails également sur lesquels on va revenir, mais notamment ces premiers jours de recherche où des chiens ont pisté jusqu'à un lavoir avant d'arrêter de pister. Mais on va y revenir, on va revenir dans ces détails. Je voudrais qu'on ait un aperçu, je vous le disais, un peu plus global dans ces premières secondes. Sandra Buisson, judiciairement, on en est où après cette conférence de presse du procureur? C'est un statu quo?
Alors non, c'est pas un statu quo. Au contraire, les enquêteurs ont beaucoup de choses à analyser. Donc les recherches déjà sur place vont se poursuivre pour rechercher le reste du corps d'Émile, le reste de ses effets personnels, puisqu'on n'a pas le short notamment. Il va falloir continuer à analyser les ossements. Est-ce qu'ils ont été ailleurs que dans cet environnement avant de se trouver sur ce chemin? On va voir s'ils ont été déplacés. Il va falloir essayer de dater le décès, notamment à partir d'éléments biologiques qu'on peut retrouver sur les ossements. Il faut analyser les vêtements, les chaussures, trouver d'éventuelles traces ADN dessus, des traces de sédiments, de terre, analyser s'ils ont été endommagés, déchirés. Si oui, est-ce que c'est par l'œuvre d'une personne humaine ou est-ce que ce sont des animaux? Et puis, il est surtout possible qu'on ne sache jamais de quoi est mort Émile.
Et c'est ça qui doit être particulièrement frustrant pour la famille, de voir que ça n'avance pas.
Alors, ça avance, on va dire que ça n'avance pas.
Ça n'avance pas dans... En tout cas, ce que je veux dire, pour reformuler ma phrase, ce qui n'avance pas, ce sont les éléments de réponse à la question la plus essentielle. C'est comment est mort Émile.
Il ne savait pas si cet enfant était vivant ou pas, s'il avait été enlevé. C'était une question qui restait en suspens. Effectivement, leur principale question maintenant, c'est de savoir comment il est décédé. Et encore une fois, des moyens sont mis en œuvre pour le découvrir. Et il y a de nouveaux éléments, nombreux, depuis dimanche, pour permettre de s'approcher de ce qui s'est passé.
Et il faut espérer que la suite de l'enquête et différentes expertises apportent ces éléments. On va continuer la discussion. Je voudrais qu'on passe un instant par le Haut-Vernay, où Thibaut Marcheteau, l'un de nos envoyés spéciaux, se trouve ce soir. Un mot d'abord sur l'atmosphère autour de ce hameau, d'à peine 25-30 âmes. Hein. Thibaut, vous le rappelez régulièrement, vous qui suivez cette enquête d'ailleurs depuis le mois de juillet dernier, qui connaissez désormais bien les lieux. 48 heures que ce village donc est de nouveau totalement bouclé pour de nouvelles recherches particulièrement précises. Quelle est l'atmosphère justement dans ce hameau depuis 48 heures?
Bah écoutez Julien, pour être tout à fait clair, vous voyez derrière moi, c'est une barrière avec un véhicule de gendarmerie. Cette barrière, elle barre la route pour se rendre au Haut-Vernay pour la tranquillité des habitants, mais c'est également pour laisser le champ libre aux enquêteurs avec des gendarmes qui sont derrière cette barrière jour et nuit. Quant au Vernay, le village où je me trouve, eh bien, vous pouvez le comprendre, c'est très difficile de parler avec les habitants parce que depuis 9 mois, ils sont au cœur d'une enquête qui touche toute la France. On peut donc imaginer le nombre de journalistes conséquents qu'il y a depuis 9 mois. Également un balai incessant de forces de l'ordre, alors que c'est un village plutôt calme en hors saison. J'ai pu quand même réussir à parler avec certains habitants pour avoir leur réaction sur cette conférence de presse et ces nouveaux éléments apportés par le procureur de la République. Parler notamment avec un habitant qui a participé à cette battue à travers les champs, 97 hectares de champs ratissés par les enquêteurs, mais aussi par des randonneurs qui se sont portés volontaires quelques jours après la disparition de ce jeune garçon. Je vous propose de l'écouter, notamment concernant les remords qu'il pourrait avoir s'il s'avère que le décès d'Émile il soit à cause d'un accident.
Si c'est vraiment un accident, on va beaucoup. Enfin, pour ma part, je me sentirais coupable de ne pas l'avoir retrouvé, en fait, parce qu'on a participé à plusieurs battues et on se dit qu'on est sûrement passé à côté et qu'on l'a loupé, quoi.
Et puis Thibault, encore un mot avant de vous libérer. Les recherches, bien sûr, vont se poursuivre. Jusqu'à quand, d'ailleurs, ce périmètre et ce bouclage, si je puis dire, du hameau est-il prévu?
Eh bien, écoutez, Julien, sur l'arrêté qui se trouve juste derrière moi, on peut lire que l'arrêté est effectif jusqu'à dimanche prochain. Il peut évidemment être prolongé par le maire de la commune. Ce que l'on sait, c'est que les recherches vont se poursuivre avec toujours le même dispositif, une centaine de gendarmes et notamment des experts avec l'IRCGN qui est sur place. Je vous propose d'écouter d'ailleurs le major Jean-Marie, maître chien, avec des chiens qui sont spécialisés dans la recherche de restes humains.
Au sein de la gendarmerie nationale, il y a une unité particulière, ça s'appelle le groupe national d'investigation cynophile, qui est formé à la recherche de restes humains. C'est la seule unité en France qui est formée pour rechercher les restes humains. On travaille au profit de la police comme de la gendarmerie.
Okay. Merci beaucoup Thibault Marcheteau pour toutes ces précisions et ces informations depuis le hameau du Haut-Vernay. Donc Sandra, vous voulez réagir à ce qui a été dit? C'est vrai que, encore une fois, aucune piste ne se dessine. Il semble pourtant, à l'aide des éléments parcellaires, mais des éléments que nous a donné le procureur, que c'est vraiment... pour l'instant, cette thèse de l'accident qui tient la corde, si je puis le dire.
Alors, j'ai pas du tout cette information-là, et c'est pas ce qu'a dit le procureur. En revanche, je voulais réagir à ce qu'a dit cet habitant du village, qui explique que ce sera extrêmement difficile à vivre pour eux, tous ceux qui ont participé au battu, s'il s'avère qu'il était là, que c'était une thèse accidentelle et qu'ils n'ont pas pu le trouver alors qu'il y a eu des battus. Et le procureur a longuement pris la peine d'expliquer pourquoi, si jamais le crâne était là avant. Que c'était tout à fait possible de ne pas l'avoir vu. D'abord parce qu'il y a une végétation extrêmement dense l'été et qu'au bord de ce chemin, c'est vraiment très pentu. Il y a une pente de plus de 30%, donc il est tout à fait possible d'être passé à côté à ce moment-là. Notamment aussi parce que les chiens pisteurs sont passés là. Les chiens pisteurs, quand ils cherchaient l'enfant vivant, en revanche, les chiens détecteurs de restes humains ne sont pas passés sur cette zone. La température extrême à ce moment-là, près de 30 degrés, a pu induire en erreur ces chiens pisteurs. Et puis, elle a pu aussi, les hélicoptères qui cherchaient des signes de présence thermique ont pu être induits en erreur par, effectivement, cette chaleur. Donc, le procureur a bien dit que, oui, il est possible que les gens soient passés à côté et ne l'aient pas vu. Et puis, l'autre possibilité, c'est que ce crâne ait été ailleurs et donc n'ait pas été sur ce chemin à ce moment-là.
Ailleurs, donc déplacé ultérieurement, c'est
oui,
ça que vous voulez dire?
On a notamment dans les éléments que livre le procureur le fait que, c'est très difficile à expliquer
bien
et
sûr,
à entendre, mais que ce crâne présente des traces de morsures probablement faites par un ou plusieurs animaux. Donc il est vraisemblable, comme il n'a pas été enfoui non plus, c'est ce que donnent les premières analyses, qu'il ait été à un autre endroit à un moment et qu'il ait pu être déplacé soit par la météo, soit par des animaux.
Le crâne, en général, pour continuer dans le sens de ce que nous explique Sandra, qui possède des fissures et des morsures post-mortem, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et deuxième question, est-ce qu'on peut savoir, sur la base de l'étude de ce crâne, si l'enfant est tombé ou est mort des suites d'une chute?
Pour l'instant, il n'y a pas de fracture antémortem. Donc, s'il avait chuté
antémortem avant la mort, bien sûr.
On aurait vu une trace de fracture. Là, c'est des fractures post-mortem. Donc, le procureur.
Ce qui accrédite aussi la thèse du déplacement, parce que si le crâne a été fracturé après la mort, c'est que potentiellement il a été en contact avec quelque chose qui l'a fracturé.
Et donc, comme il y a un terrain très très pentu, comme il y a un cours d'eau qui paraît-il se transforme en torrent dès qu'il y a des grandes précipitations. Les vêtements ont quand même été trouvés, enfin une partie, puisqu'il semblerait qu'il manque une pièce de vêtements, ont été trouvés à 150 mètres. Donc ça veut dire que la tête n'était pas loin non plus des vêtements et que ça a pu être éparpillé soit par la météo. Je rappelle que la semaine dernière, quand ils ont fait l'acte sur le terrain, il y avait une tempête de neige encore à cette période. Donc c'est un endroit mouvementé avec des conditions météo qui ont pu déplacer un corps qui était démembré. Parce que comme il est dans la nature depuis 9 mois, le corps d'un enfant, au bout de 9 mois, il n'y a plus de corps mou et de ligaments. Donc les os peuvent être déplacés.
L'élément le plus important aujourd'hui pour imaginer de nouvelles réponses, ce sera l'analyse de ces vêtements.
Oui, alors là aussi, moi, j'y crois pas trop. Des vêtements qui ont traîné pendant 9 mois dehors, sous la pluie.
Ils n'ont plus rien à nous dire.
Je pense que ça va être très difficile à peut-être extraire de l'ADN encore, mais des autres constatations dessus sont compliquées. Par contre, je partage un peu aussi ce que disait le procureur et votre journaliste spécialisé sur le fait que les chiens sont quand même un peu handicapés quand il fait des températures extrêmement élevées. Parce que le pissage, d'après ce qu'on nous a expliqué, il s'est arrêté à la fontaine.
Oui, un lavoir, je crois, c'est ça.
Un lavoir, une fontaine. Il n'y a pas de...
Et si le pistache s'est arrêté, c'est-à-dire qu'il a commencé, pardon, c'est un peu un raisonnement par l'absurde,
oui, mais
si le pistache s'est arrêté, c'est qu'il a commencé, ça veut dire qu'ils ont flairé quelque chose.
Émile a marché dans le village, pas forcément au moment où il est parti, mais peut-être un peu plus tôt, etc. Donc, ils ont pu détecter une ancienne
trace. Oui, des traces antécédentes, oui, c'est vrai.
Voilà. Et juste pour accréditer aussi l'hypothèse d'un ossement qui aurait pu être déplacé, c'est que cette promeneuse qui a découvert le crâne, donc il était sur le chemin, et elle se souvient qu'il y a un peu plus d'un mois, elle est passée par le même endroit et il n'y était pas. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments qui vont dans le sens d'ossements qui ont été déplacés. Peut-être naturellement, par les animaux ou par la météo, mais le procureur n'exclut toujours pas la possibilité humaine.
Un dernier extrait du procureur qui rappelle que, en effet, toutes les hypothèses sont encore sur la table.
Sous l'autorité des juges d'instruction, l'enquête va se poursuivre avec la même intensité. Elle se poursuit en ce moment sur le terrain car les fouilles ne sont pas terminées. Elles se poursuivront probablement demain sur ce terrain. Elles vont se poursuivre sur le plan criminalistique car les éléments retrouvés n'ont pas fini d'être analysés. Entre la chute de l'enfant, l'homicide involontaire et le meurtre, on ne peut toujours pas privilégier une hypothèse plus qu'une autre pour expliquer la disparition puis la mort de l'enfant Émile.
Sandro Buisson, comme vous me le disiez, et je l'entends bien, aucune thèse n'est mise en avant, et le procureur le rappelle encore très très clairement, mais ce que je voulais dire, et peut-être que je dois le reformuler, les différents éléments qui sont apportés vont plus dans la direction d'un accident que dans la direction d'une piste criminelle. C'est ça
c'est
l'impression que ça nous donne,
nous
en tout cas.
Ils ne peuvent pas écarter l'hypothèse criminelle, visiblement.
François Calfon, une réaction.
Oui, déjà, moi, je voulais saluer le travail des enquêteurs. On est tellement passionnés par cette espèce de feuilleton qui est tout à fait tragique qu'on en oublie cela. Il y a quand même des éléments, alors qui parleront ou qui ne parleront pas, comme on dit. Mais ce travail énorme, ça a été rappelé, le nombre d'écoutes téléphoniques, ça a été dit discrètement. Enfin, en gros, tout le village a été mis au crible, toute la famille, tout l'entourage, etc. Et quand je me posais la question en vous écoutant les uns les autres, entre finalement, il y a deux hypothèses. Une hypothèse accidentelle, suscitée soit par des animaux, soit autre chose. Une hypothèse criminelle, avec un crâne qui réapparaît sur un chemin de manière... peut-être mise en scène.
À 25 alors, minutes à pied du village, ça paraît pas si loin.
Je ne suis pas enquêteur, mais je pense qu'il n'y aura pas que la partie police technique et scientifique qui va continuer. Je pense que si quelqu'un a fait une mise en scène macabre, c'est le moment d'écouter encore plus tous les gens qui sont dans un spectre possible, finalement, de culpabilité. Donc je pense que, pour le coup, la découverte du corps est quand même une information très importante.
Du crâne uniquement.
Enfin, du crâne et d'une partie. Et donc, on voit bien que maintenant, il y a deux chemins possibles. Mais je pense que le chemin criminel n'est pas abandonné.
Non.
Et que, comme tout le monde a été surpris, donc les enquêteurs aussi, ils ont le même cerveau que vous et moi sur ce plateau. Tout le monde a été surpris de ce qui aurait pu être une mise en scène macabre, effectivement, pendant le week-end pascal de la résurrection avec un crâne qui réapparaît dans un contexte familial extrêmement religieux, chrétien.
C'est vrai.
Je pense que les enquêteurs ne vont pas oublier cette hypothèse parce qu'il y a des chiens qui vont pister parce qu'on va faire de l'ADN. Bien évidemment que, pardon, mais tous les gens qui sont... dans les radars, comme on le dit en matière terroriste, mais aussi en matière criminelle, vont être surveillés. Parce
évidemment.
Que s'il y a eu un déplacement de crâne et que l'auteur est dans l'environnement, à un moment donné, il sera peut-être tenté de se vanter, d'appeler quelqu'un, etc., etc. Et donc, il sera écouté.
Et c'est vrai que, en général, et Sandra également, on a bien compris que, et depuis des jours et des jours, on nous explique très clairement la topographie des lieux, mais cette question... elle persiste malgré les explications, malgré ce terrain meuble, malgré ce terrain accidenté, cette pente très, très prononcée. Comment est-ce qu'on a pu passer à côté de ce crâne jusqu'à ce week-end? C'est à 25 minutes à pied du village, ça paraît pas si loin. Il y a peut-être, encore une fois, on est toujours en train d'émettre des hypothèses, personne ne détient encore la vérité, mais un manque de coordination dans les premiers jours de recherche, c'est une éventualité. L'échec n'est pas...
Il est possible aussi, alors moi je ne connais pas la topographie des lieux, mais il est possible que les gens qui faisaient les battues, quand ils sont arrivés sur un terrain pentu et complètement accidenté, ils ont pensé que le gamin il n'avait pas pu passer là. Parce que si on part sur l'hypothèse d'un gamin chute, il s'égare, il se trompe.
On peut imaginer qu'on ait loupé le coche les premiers jours de recherche.
En fait, il ne pouvait pas forcément y accéder à ce ravin qui borde le chemin. En fait, c'est ce qu'a dit le procureur. C'était très pentu.
Et oui, mais dans les 48 premières heures de recherche, cette zone-là a été sondée, Sandra.
Oui, elle a été sondée. Ils sont passés avec des gens et avec des chiens pisteurs. Mais le crâne, a priori, tout laisse à penser que le crâne n'était pas sur le chemin.
Donc,
si vraiment c'est la météo des animaux, c'est qu'il était ailleurs ou en haut et que les pluies l'ont fait dévaler. Et encore une fois, l'autre point, effectivement, qui va dans le sens que vous abordiez, c'est-à-dire l'accident, c'est qu'on a appris aussi que ce crâne n'a pas été enfoui. Ça veut dire qu'il n'a pas été caché. C'est-à-dire qu'il a pu être laissé.
Ou conservé.
Si on parle d'un acte humain, il a été laissé. Non, ils ont expliqué qu'il a été très longtemps à la merci des éléments météo. Donc il n'a pas été caché, il est resté dehors très longtemps. Maintenant, est-ce que c'était là, ou un petit peu plus haut, ou un petit peu plus loin? C'est possible.
En tout cas, Général Morel, si on apprend qu'Émile s'est perdu et qu'on ne l'a plus retrouvé, il n'y aura plus de sujet criminel, ça c'est une certitude, mais il y aura de grandes interrogations sur la façon dont il a été recherché.
Oui, alors je disais précédemment, les chiens pisteurs, c'est ce qui a été évoqué par des maîtres chiens, ils sont quand même handicapés, entre guillemets, quand la température est très importante.
Même les meilleurs chiens pisteurs ont leurs limites.
Apparemment, hein, je ne suis plus en activité, mais j'ai quand même découvert cette information récemment. Et l'hélicoptère équipé de caméras thermiques n'est pas aussi performant, si vous voulez, pour rechercher une source de chaleur, puisque qu'est-ce qu'elle cherche, la caméra thermique? Elle cherche une source de chaleur. Mais si la température environnante est plus chaude que la température corporelle, ça n'aide pas à y voir clair, si vous voulez, sur les écrans. Quoi.
Un train loupé et de la malchance, c'est encore trop tôt pour le dire, sachant qu'évidemment, la piste criminelle n'est pas du tout écartée, encore une fois.
Et il faut bien préciser aussi qu'il ne faut pas écarter la possibilité de trouver le reste du corps d'Émile, parce qu'il y a ces fameux, alors non pas les chiens pisteurs, mais les chiens détecteurs de restes humains. Eux, ils sont 5 sur zone, et ce qu'on a appris cet après-midi d'un expert de la gendarmerie, c'est qu'ils peuvent détecter la présence d'un corps, même quand il n'y est plus, c'est-à-dire l'endroit où ont pu être des ossements d'Émile, même s'ils n'y sont plus. Et il est possible aussi pour ces chiens de détecter des ossements enfouis jusqu'à 1 mètre de profondeur.
Tour de table, ceux qui n'ont pas encore commenté cette actualité, c'est vrai que le doute est toujours très largement permis, Jean-Sébastien.
Oui, mais il y a une enquête en cours et on verra bien. Pas s'y substituer. Moi, je ne peux que penser à ce qu'a vécu.
Et on ne peut pas s'empêcher de la commenter, parce que, comme chacun le rappelle, ça nous renvoie tous à quelque chose.
Je comprends parfaitement le fait que ça intéresse, mais je veux dire, j'écoute Sandra Buisson ou le général avec grand intérêt, parce qu'ils ont une légitimité ou qu'ils se sont intéressés au dossier, mais moi, je ne peux rien vous dire d'autre que le fait de me projeter dans la situation de ce que vit cette famille, de ce que vivent ses parents, et que c'est, de toute façon, je pense, une des pires choses qui puisse arriver dans la vie.
Raphaël Stainville.
Ouais, moi, je suis un peu dans le même cas de figure que Vincent. C'est-à-dire qu'on ne peut s'empêcher de penser d'abord à la douleur de cette famille, à leurs propos refusant aujourd'hui de vouloir ne serait-ce que s'exprimer, et on le comprend absolument. Ce qui a été révélé ces dernières 48 heures, à la fois, ça a été dit, c'est une immense avancée, puisque aujourd'hui il y a des ossements, et en même temps c'est un vide vertigineux, c'est-à-dire que ça a été rappelé par le procureur, aucune piste aujourd'hui n'est écartée, et donc on peut commenter à l'infini, et en même temps, lorsqu'on est comme beaucoup, je pense, autour de ce plateau, père de famille, juste saisi par cette douleur de la famille et ne pas vouloir finalement abonder dans une thèse ou dans une autre, parce que finalement la vérité, c'est que aujourd'hui on n'en sait rien, que l'enquête se poursuit, qu'on espère de tout cœur avoir le maximum d'événements, mais peut-être que ultimement restera ce mystère absolu avec juste ces ossements du...
Il ne faut pas le souhaiter. On se dit qu'il y a tellement de moyens qui sont mis, notamment ces derniers jours. Et d'ailleurs, avant d'entendre Nathan Devers, en général, un mot également sur les avancées de la police scientifique, avec des progrès incroyables qui sont faits, j'ai envie de dire, quasiment au jour le jour. ça peut être un motif d'espoir de se dire que la science est tellement aboutie sur ses recherches et la détection de preuves que, contrairement à des affaires qui ont 10, 15, 20, 30 ans, on pourrait faire une lumière quand même un peu plus facilement.
Mais là, tous les moyens disponibles et spécialisés ont été mis en œuvre, hein, les anthropologues, les médecins légistes, les équipes qui viennent faire les relevés sur le terrain, tout mettre en 3D, enfin... La gendarmerie, si vous voulez, a jamais mis...
De votre expérience, du haut de votre expérience, vous avez déjà vu un tel déploiement de force et d'énergie pour une enquête ?
Non, non, jamais. Ouais. Jamais, il y a eu une telle émotion.
Il y a Cédric Jubilard, Maëlys, oui. Il y a des
même
moyens
si vous, conséquents. Si vous regardez, si vous voulez, ce qui a été mis, cette affaire-là, par rapport aux autres, elle a soulevé une émotion dans la population qui n'a rien à voir. La photo de ce petit ange là avec ça a vraiment soulevé une émotion.
Une émotion, ça je suis tout à fait d'accord. Les moyens engagés sont exceptionnels comme ils l'étaient pour d'autres.
Les médias s'y sont intéressés sans arrêt et donc il y avait un devoir de retrouver ce gamin. Et quand c'est un petit enfant, c'est comme disait monsieur. Tout le monde a des enfants, les gens se sentent concernés.
Oui, mais je dis aussi que des moyens exceptionnels ont été mis en œuvre pour Maëlys, qui était une enfant. Les spécialistes de l'IRCGN ont désossé une voiture jusqu'à aller retrouver l'infime goutte de sang dans le coffre. Donc les moyens qui sont mis en œuvre l'ont déjà été régulièrement dans différentes affaires.
Oui, mais on n'a pas été amené à tourner avec des hélicoptères, avec 15 équipes cynophiles. Il n'y a jamais eu autant d'équipes cynophiles d'amener sur une scène.
On ne va pas reprocher aux forces de l'ordre de mettre des moyens conséquents pour retrouver
le mieux a été fait,
pauvre enfant.
Malheureusement.
Nathan, votre regard, et on va conclure dans quelques instants sur ce sujet avant de s'intéresser à une autre affaire terrible, hein, celle de la petite Lola, l'expertise psychiatrique de la présumée coupable de cette affaire qui, là encore, est assez glaçante. Mais votre avis sur cette disparition et ces rebondissements des derniers jours ?
Mon avis est un peu le même que ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir que c'est extrêmement difficile de commenter ce drame quand on n'a pas une légitimité, qu'on soit journaliste spécialisé dans ce genre d'affaires, qu'on soit policier, enquêteur, pour deux raisons. D'abord parce que il me semble que la pudeur oblige à s'en tenir à l'émotion, à la compassion pure, absolue, envers une situation qui, à mon avis, est indicible, même si, moi en plus, j'ai pas d'enfants, mais il me semble que même si on a des enfants, on peut, à maxima, s'identifier vaguement à ce que ressentent les parents aujourd'hui d'Émile, mais personne ne peut vraiment le comprendre de l'intérieur. Et en l'occurrence, et c'est un peu la question que je me pose, hein, c'est que les parents d'Émile ont clairement fait savoir, depuis le début de cette histoire, qu'ils ne voulaient pas tellement qu'il y ait une sorte de médiatisation à outrance. Ils ont fait savoir qu'ils n'avaient pas envie de...
Ils fuient la presse et on peut légitimement les comprendre.
Ils n'ont pas donné d'interview jusqu'alors, excepté à Famille Chrétienne. Ils étaient, ils ont clairement aussi, par l'intermédiaire de leur avocat, dit, je crois, de manière quasiment explicite, mais qu'ils n'étaient pas très contents de voir que plein de gens se mettaient à rôder dans leur hameau pour voir ce qui s'était passé, etc.
Plusieurs fois, l'accès a été
bloqué.
Il l'est encore ce soir.
Et donc, moi, la question que je me pose. En voyant, notamment par les réseaux sociaux, l'information sur cette histoire et puis les commentaires de cette information qui impliquent parfois des grandes personnalités, notamment politiques. Je pense à une ancienne finaliste de l'élection présidentielle qui, il y a quelques mois, donnait son avis sur qui était suspect, qui ne l'était pas exactement. Je me demande quelle est la part de l'empathie sincère et quelle est la part du petit goût du sang, du petit sensationnalisme, du petit voyeurisme et de cette excitation macabre de se croire dans une sorte de cluedo géant où chacun s'amuse à dire qui est suspect, qui l'est pas, est-ce que c'est un accident, est-ce que ça l'est pas. Alors évidemment, c'est pas un phénomène proprement contemporain. C'est aussi vieux que les faits tragiques, c'est aussi vieux que ce qu'on appelle les faits divers, j'aime pas trop cette expression.
C'est aussi vieux que l'âme humaine.
C'est aussi vieux que l'âme humaine, bien sûr, mais ça prend une expression, notamment à travers les réseaux sociaux, qui est très préoccupante. Et quand je dis ça, c'est pas du tout pour dire que je pense que la mort d'Émile est quelque chose dont on ne devrait pas parler. Mais c'est vrai que c'est particulier de voir que ça devient l'événement politique, enfin social, vous voyez, majeur de la semaine. C'est pas du tout par mépris ou par indifférence, c'est au contraire, je dirais, par pudeur, par respect du silence que cette famille exige. Et il me semble que dans le méga commentaire qu'on voit surchauffer sur les réseaux, ou cet événement que je citais d'une ancienne candidate à l'élection présidentielle très sérieuse qui descend dans la Vilainie de commencer à se prendre pour Sherlock Holmes, ça dit quelque chose sur une certaine forme de médiocrité qui n'est pas propre à notre époque, mais qui s'exprime avec les moyens de celle-ci.
Là encore, mon général, cet emballement médiatique, cette fascination peut-être morbide de certains, en tout cas cette fascination nationale, cette empathie nationale autour des miens, elle vous évoque là encore d'autres affaires qui ont marqué notre pays, que vous avez pu peut-être sur laquelle vous avez pu travailler.
Ben, sur lesquels j'ai travaillé, si vous voulez, j'ai eu la chance de pas me trouver confronté à des histoires aussi horribles. C'était d'autres, c'était des affaires qui concernaient des adultes. Je pense que la sensibilité, dès que ça concerne des enfants, est pas du tout la même. Bon, je n'avais pas envisagé un peu cet aspect de l'intérêt de certains pour des aspects que moi je connais mal. Mais j'ai remarqué que dès qu'on avait des affaires de mineurs et d'enfants, avec des enfants qui disparaissaient, il y avait une émotion et il y avait chez les enquêteurs beaucoup plus d'énergie pour sortir les dossiers, s'impliquer.
Et paradoxalement, ça peut peut-être nuire à l'enquête, non ? Le fait de s'impliquer personnellement, de se dire, d'avoir un espèce d'effet miroir comme ça quand on est enquêteur, de se dire ça pourrait être ma fille, ça pourrait être mon fils, ça pourrait être un de mes proches. L'implication personnelle ne nuit-elle pas à l'enquête ?
Non, je crois que c'est que du des bonnes ondes, que du positif et que de l'énergie positive.
Après, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de gendarmes qui ont...
Plusieurs, ça équilibre.
On peut quand même imaginer qu'il y a beaucoup de gendarmes ces derniers jours qui ont du mal à trouver le sommeil, ceux qui sont évidemment au cœur de cette enquête. On ne dort pas quand on est sur une enquête comme celle-là.
Il y a même des cellules psychologiques
pour les enquêteurs.
Pour les personnels maintenant, parce que ceux qui sont confrontés aux examens à Pontoise, les gens de la brigade, cette femme qui ouvre son sac, qui sort la tête de l'enfant. On n'est pas forcément préparé à ce type de rencontre. Hein.
Sandra, un tout dernier mot, et puis on va évidemment faire le point sur l'actu avec Maureen, et puis passer à un autre sujet. On l'a bien compris, donc jusqu'à dimanche, le village est bouclé. Les recherches à cette échelle continuent, dans l'hypothèse où dimanche soir, on n'a pas avancé. Est-ce qu'on sait déjà si ce sera poursuivi ?
Le blocage, l'interdiction d'accès au hameau, c'est pour permettre effectivement aux enquêteurs de travailler correctement. Après, ça peut être prolongé, ça c'est un arrêté d'interdiction, s'il peut être prolongé. Là, pour l'instant...
On peut pas laisser ce hameau sous cloche éternellement non plus.
Non, il va falloir que les gens puissent reprendre une vie normale. Et pour l'instant, on sait que demain, les recherches continuent. Et ça sera en fonction du périmètre qui a été quadrillé, avec quels moyens il a été quadrillé. Les recherches continueront le temps nécessaire. Après, l'interdiction d'accès au hameau, ça c'est autre chose.
Général Jacques Morel, général de gendarmerie, ancien patron de la section de recherche de Versailles, je vous remercie de nous avoir éclairé le temps de cette demi-heure consacrée à la mort d'Émile et aux recherches qui se poursuivent. Merci beaucoup Sandra Buisson d'être venue également décrypter tout cela. Il est 23h pile, on marque une très courte pause actu avec Maureen Vidal et puis on parle de l'affaire Lola qu'on a également tous en mémoire et d'Abia B, la principale suspecte qui, a priori, pourra être jugée pour les actes qu'elle a commis. Maureen Vidal.
Le département de l'Yonne, toujours en vigilance rouge pour forte crue. À Chablis, les niveaux attendus sont inédits, jusqu'à 2,5 mètres de crue. Le pic devrait être atteint en fin de soirée, entre 23h et 1h du matin, selon la préfecture. Pour le moment, les riverains ne veulent pas évacuer leur logement dans ce bourg de 2300 habitants. Le député Julien Bayou démissionne d'Europe Écologie Les Verts et de son groupe à l'Assemblée nationale. L'élu de Paris est visé par une plainte de son ex-compagne pour harcèlement moral et abus de faiblesse. Il a donc annoncé sa démission dans un mail adressé à son parti. Enfin, ce drame en Islande, dans la ville de Vanta, un jeune de 12 ans a tué un enfant par balle dans son école. Deux élèves ont également été gravement blessés. Le jeune suspect a été interpellé. L'arme appartiendrait à un proche. Une enquête a été ouverte pour meurtre et tentative de meurtre.
Dans cette autre terrible affaire, l'affaire Lola, rien ne devrait s'opposer à la mise en accusation de Dabia B devant la cour d'assises. Après une première expertise qui avait été rendue en novembre 2022, une contre-expertise psychiatrique a conclu que la jeune femme était en pleine conscience lors de ses actes lorsque l'adolescente de 12 ans a été martyrisée et assassinée. Explication, Isabelle Piboulot.
C'est une expertise accablante. Celle qui a reconnu avoir tué et violé Lola le 14 octobre 2022 à Paris était bien consciente de ses actes. Dans un document de 31 pages remis le 15 janvier, voici ce qu'ont conclu deux experts psychiatres mandatés par la juge d'instruction concernant Dabia B.
Le sujet n'était pas atteint au moment des faits d'un trouble psychiatrique aliénant.
Après avoir rencontré la suspecte de 25 ans à trois reprises, les praticiens ont décelé chez elle un sévère trouble de la personnalité et pointé une dangerosité particulière. Mais pas de difficulté de compréhension, aucun trouble de la logique et du raisonnement, aucun vécu délirant, pas de syndrome de désorganisation. À cela s'ajoute une froideur et une grande difficulté à évoquer les faits qui lui valent sa mise en examen pour meurtre et viol sur mineur avec torture et actes de barbarie.
Elle n'exprime spontanément aucune empathie ni préoccupation pour la victime et sa famille. Elle est préoccupée par les conséquences judiciaires qu'elle encourt.
Son discernement étant ni aboli ni altéré, Dabia B est donc apte à être jugée pénalement en cour d'assises.
Jean-Sébastien Ferjou, ces récentes conclusions, je les trouve encore plus désarmantes parce que on comprend qu'elle a commis ces monstruosités en pleine conscience.
Oui, mais le mal existe. Malheureusement, il fait partie.
On ne s'en rend compte que quand on l'a en face de nous, et c'est vrai que ça paraît.
L'histoire humaine, je pense, est assez longue pour que nous en ayons déjà la conviction, même si certaines visions idéologiques ou politiques tendraient à considérer que ça n'est pas le cas et que le mal serait uniquement imputable à des structures sociales et pas en propre à la nature humaine. Pour ma part, je pense qu'il est propre à la nature humaine et que pas. Dans des intensités comparables chez l'ensemble des individus, évidemment, mais oui, mais en tout cas...
Mais inconsciemment, on a tout de suite, et d'ailleurs dans ce cas-là, dans tout ce genre de crime odieux, on a tendance à tout de suite vouloir psychiatriser l'auteur, pour justement prendre une distance entre eux et nous, d'une certaine manière. Et cette expertise nous renvoie au fait que Dabia B, elle est comme vous et moi. D'une certaine manière.
Je pense probablement.
Enfin, oui, évidemment, avec les nuances qu'on peut.
Parce que la victime est une enfant et qu'il s'agit d'une femme et que dans la représentation collective, on a l'impression que les femmes seraient moins violentes, ce qu'elles ne sont pas nécessairement. Elles peuvent l'être moins physiquement, pas nécessairement moins violentes dans l'absolu. Et là encore, l'histoire a pu nous le prouver à différentes reprises. Mais oui, on ne peut qu'être perturbé par des gens qui se livrent gratuitement à des actes de barbarie de cette nature-là. Mais ça fait partie. Un trouble de la personnalité, ça n'est pas effectivement une excuse psychiatrique.
Dabia B vit avec un sévère trouble de la personnalité. Toutefois, elle n'est pas sujette à des difficultés de compréhension. Aucun trouble de la logique et du raisonnement, aucun vécu délirant, aucun trouble du jugement ni du raisonnement, donc aucun symptôme dépressif. Mais alors comment explique-t-elle la monstruosité de son acte? Elle fait mine de ne pas pouvoir s'exprimer sur les motivations qui l'ont conduit au passage à l'acte, s'engage dans des réponses courtes, creuses, vides de sens. Elle n'est pas en mesure de rendre compte de sa motivation. Et les experts rajoutent, on va le voir à l'image, on ne note aucune manifestation émotionnelle à l'évocation des faits. Elle n'exprime spontanément aucune empathie, aucune préoccupation pour la victime ou sa famille. Elle est préoccupée par les conséquences judiciaires qu'elle encourt. C'est particulièrement déroutant, encore une fois. Raphaël Steinville, on fait un tour de table autour de cette expertise.
Oui, bien sûr, c'est déroutant. Il faut rappeler qu'il n'y a pas que Lola qui a été brisée et dont la vie a été brisée par Dabia B, mais il y a également le père.
Son papa qui est récemment décédé.
Est décédé, probablement emporté par le chagrin et l'inexplicable du geste de Dabia B. Oui, ce qui est intéressant, c'est que ça a été dit, c'est-à-dire qu'à la fois sa conscience n'a pas été altérée et pour autant, malgré les troubles psychologiques qu'elle avait, sa conscience n'était pas altérée. Ça suppose que le procès qui va s'ouvrir risque d'être assez glaçant finalement. Je pense, parce que c'est à la fois quelqu'un qui
Mais si elle est autant préoccupée par les conséquences judiciaires, il se peut qu'elle montre un peu d'humanité au procès.
On n'en sait rien, mais aujourd'hui, justement, c'est-à-dire que c'est quand même étonnant qu'aujourd'hui, sa principale préoccupation soit les conséquences judiciaires de ses actes, plutôt que l'espèce de traumatisme qui n'est pas seulement celui de la famille, mais je pense de l'ensemble de la France à travers cet acte odieux qui a été commis ce jour-là.
D'une certaine manière, François Calfon, ça aurait été presque rassurant, encore une fois, de se dire qu'elle était aliénée au moment des faits, parce que quel être humain doté de conscience peut commettre une chose pareille ?
Bah, c'est une psychopathe. Hein. Enfin, il se trouve que la justice, entre les bouffées délirantes et une maladie psychiatrique bien connue, qui s'appelle la psychopathie, hein, de tous les tueurs en série, et qui n'éprouve ni remords, ni regrets, de manière extrêmement froide, ben on a affaire à ce type de profil. Non, moi, je voudrais pas commenter le fait divers, parce que j'ai pas beaucoup de talent pour ça. Et tout à l'heure, ça a été dit, pas forcément de valeur ajoutée. Par contre, il y a un point commun entre Émile et Lola, si j'ose dire, c'est que, en permanence, on entend des gens nous dire que la justice ne passe pas, que la police est incapable, que nous sommes dans une société de la plus grande permissivité, qui excuse les auteurs, qui ne prend pas en compte les victimes. Bon, là, premièrement, sur l'affaire Émile, on voit que la justice travaille, la police travaille, et moi j'en suis fier, c'est pas le mot, parce qu'il y a la douleur des parents, mais je crois que cette enquête ira à son terme. Et là, que n'a-t-on pas entendu, y compris en termes de récupération politique, sur l'affaire Lola, en disant encore que tout cela était le fruit de l'immigration incontrôlée, qu'il n'y avait plus de justice, plus de police, etc. Et on voit que l'expertise...
Bah ça a quand même été, pardon, à François Calfon, mais ça a été quand même un détonateur et pour poser la question de la politique migratoire de notre pays.
D'accord, mais
je rappelle que cette jeune femme mise en examen était sous le coup d'une OQTF, donc elle n'avait rien à faire sur le territoire national.
Moi, je veux rendre justice à la justice, que l'expertise psychiatrique est prononcée et qu'elle va répondre de ses actes. Et qu'à un moment donné, ceux qui nous expliquent qu'il y aurait une sorte d'impunité généralisée, je me souviens du parti Reconquête, qui a été une attitude absolument odieuse vis-à-vis de la famille et de ce drame, eh bien, je constate, et là je ne défends aucun pouvoir, simplement le pouvoir judiciaire, que la justice va passer. Et je le dis, moi qui suis un militant politique, parce qu'après on est en train de faire des oppositions de style, ce qui était dégueulasse, c'est la récupération politique.
On a compris, François.
Ne faites pas l'avocat de monsieur Zemmour, à moins que vous en soyez.
Non, mais
moi, je dis simplement, en tant que...
Je voudrais qu'on puisse vous répondre, juste, François.
Non, mais juste, en tant que citoyen, j'espère que la justice passera avec toute la fermeté nécessaire. Voilà. Non,
mais ça, je rappelle une dernière fois, avant de rendre la parole tout de suite à Raphaël, c'est que cette jeune femme n'aurait jamais dû être sur le territoire national et que la petite Lola, si les OQTF étaient respectés dans notre pays, la petite Lola serait encore aux côtés de ses parents aujourd'hui.
Non, mais c'est pour ça que je suis un peu surpris et peut-être même choqué de vous entendre dire que tout fonctionne bien et que la justice...
Non, je salue quand ça fonctionne bien.
Non, mais...
Il y a forcément un dysfonctionnement.
C'est parce qu'il y a eu un dysfonctionnement que on a connu ce drame et que ultimement peut-être que la justice passera et qu'elle sera condamnée. Mais entre temps, il y a eu la mort d'une petite fille, la petite Lola. Il y a eu la mort de son père qui a été emporté par le chagrin. Et vous nous dites que la justice, c'est la démonstration de l'effectivité de la justice. Je suis désolé. Il y a quand même une incompréhension générale.
Vous aviez des larmes de crocodile tout à l'heure
d'Émile.
Vous n'avez aucune larme de crocodile sur la famille de Lola.
Ah non, aucune. Non,
quel rapport ?
Non,
pardon,
on a assisté à une récupération politique absolument dégueulasse sur l'affaire Lola.
Je le dis. Pardon, François, j'essaye même de m'abstraire du contexte politique. Je raisonne comme tous les Français au moment de ce drame. Tout le monde a vu, a entendu que cette Dabia B était sous le coup d'une OQTF. Et on se dit, vous expliquez que la justice fonctionne bien.
Alors, je fais la part des choses. Qu'on produise un commentaire.
Et on va conclure là-dessus parce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient s'exprimer. Bien sûr, allez-y.
Je fais la part des choses entre un commentaire qui, bien évidemment, on peut considérer qu'elle n'avait rien à faire sur notre territoire.
C'est un fait.
D'accord. Et ce que j'ai vu à l'époque et que je dénonce, c'est-à-dire un parti politique avec son logo, Reconquête pour ne pas le nommer, qui a fait preuve d'une récupération politique dégueulasse.
Bon, c'est un peu hors sujet.
C'est pas hors sujet. Souvenez-vous des images.
2 millions, 5 millions de personnes dans la rue. Marche blanche pour Lola, il n'y a eu personne dans la rue.
Bon, Nathan Devers.
Je suis parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit. Et je parlais tout à l'heure, on parlait des vautours sur l'affaire Émile ou des vautours potentiels. Là, dans l'affaire Lola, il me semble qu'ils se sont vraiment manifestés de manière très claire. Vous parlez des parents de Lola. De mémoire, la famille, c'était il y a longtemps, mais la famille de Lola avait demandé à arrêter la récupération.
Il y a seulement l'avocat qui s'est exprimé.
Oui, mais
le père, lorsqu'il s'est exprimé, n'a pas du tout dit les mêmes mots que ceux de l'avocat de la famille.
Est-ce que c'est de la récupération politique, forcément, d'être indigné par une situation insupportable?
Il y a une petite fille qui est morte dans des conditions absolument monstrueuse, absolument indicible. Vous parliez tout à l'heure du mal qui est enraciné en la condition humaine. Vous décriviez le profil de cette criminelle qui n'a aucun remords et qui se soucie uniquement de son avenir judiciaire. Tout ça donne, le mot nausé serait un petit mot, c'est indicible. Le fait qu'il y ait eu des gens qui étaient à l'époque assez bas dans les sondages et qui se disent, parce qu'évidemment que ça fonctionne comme ça la politique, on le sait très bien, qui font des petites réunions entre eux, qui se disent, oh, ce sujet prend, on va le faire prendre sur les réseaux, on va faire des tendances Twitter, on va organiser des trucs, on va récupérer les, vous savez, ils avaient acheté je sais plus quoi, les droits des images,
oui,
c'était dégueulasse.
C'est absolument dégueulasse. Et que quand, avec un truc funeste, en plus de dire que c'était la conséquence de l'immigration, et quand des gens, du coup, comme nous, répondions que c'était de l'instrumentalisation, on nous accusait de ne pas avoir de pitié pour la petite Lola. Ces méthodes politiques était abjecte. Je crois d'ailleurs.
Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu entre des politiques qui ont récupéré à outrance cette affaire et simplement ceux qui ont mis sur la place publique de façon émotionnelle et spontanée le fait que cette femme, cette criminelle en puissance, cette criminelle qui sera jugée, pardonnez-moi, n'avait rien à faire et que c'est une faille de notre système qui a fait qu'elle puisse se retrouver à assassiner Lola. Enfin, c'est juste ça.
Vous posez de la bonne question. Ça doit se faire avec décence, premièrement.
Exactement. Bon,
et il n'y en avait pas eu. Ah, et deuxièmement, il me semble
la décence, alors.
Que quand on a des désaccords...
Acheter les noms de domaine de Lola, il n'y a pas plus dégueulasse.
Oui, oui. Non, alors, là, vous parlez d'un micro-épisode qui a été dénoncé par tout le monde.
Mais d'accord.
Qui a été dénoncé par 99% des observateurs.
Est-ce que le débat avec pudeur et mesure était légitime? Oui, il est. Le débat est toujours légitime.
Et j'ajoute juste...
Nathan et Jean-Sébastien pour conclure.
C'était lointain, mais je cite de mémoire. Mais il y avait eu une marche, une soirée à Paris, je crois, place d'Enfer Rochereau ou ailleurs, en hommage à Lola. Des militants, c'était écrit lors de cette marche, migrants assassins, dehors les migrants, un truc comme ça. Voilà. Après, évidemment, on s'étonne qu'il n'y ait pas eu 5 millions de Français à cette marche. Une marche organisée par les gens qu'on sait, avec Reconquête, etc. Il y a des militants qui venaient crier ça.
C'est sûr de mettre c'est mieux de mettre des bougies et des petites fleurs et puis d'attendre que le prochain crime se manifeste.
Quand on utilise un drame de cette nature pour crier des insanités racistes, évidemment que c'est la pire manière de rendre hommage à une petite fille. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin pour le faire. Quand il y a eu la mort de Mireille Knoll, la mort de Sarah Halimi, d'autres faits comme ça tragiques, j'ai pas vu des centaines de personnes dans les rues pour dire des phrases racistes. Et si c'était le cas, évidemment qu'il y aurait eu personne dans les rues.
Jean-Sébastien, on conclut là-dessus.
Mais moi, je suis pas très à l'aise avec la rhétorique de l'instrumentalisation, parce que souvent elle en cache une autre d'ailleurs, parce que c'est une contre-instrumentalisation, et surtout parce qu'elle est un peu méprisante pour les Français. Ce qui compte, c'est quand même de se souvenir que les gens sont capables de rester, eux, dignes et de se faire une opinion indépendamment de ce qu'on leur met sous le nez ou de la manière dont, avec plus ou moins de vulgarité ou plus ou moins de cynisme, X ou X événements sont commentés. Mais surtout par rapport à ce que vous disiez, oui, bien sûr, la justice ou la police sont capables de fonctionner.
Mais c'est bien de le rappeler quand même.
Dramatique. Je ne dis pas l'inverse, François Calfon. Je constate juste que dans le quotidien, des personnalités, et je ne fais pas référence du tout à ses origines, je vous parle juste du trouble de personnalité qui est le sien, elle serait 100% française que la chose serait exactement la même, qu'on ne sait pas toujours traiter et malgré tout, voit qu'il y a beaucoup de personnalités de ce type-là dans notre société. Parce que vous pouvez avoir comme voisin, comme voisine, une personnalité de cet ordre-là et je ne suis pas certain que pour les gens qui y sont confrontés justement, ils aient l'impression que la justice fonctionne toujours très bien parce que c'est difficile à s'arrêter là.
C'est intéressant par ailleurs.
Bien sûr que c'est très intéressant.
Je préfère la manière dont M. Ferjou dit les choses parce que, et compris pour revenir à ce débat, j'étais un peu provocateur, mais après tout, c'est un débat. Toutes les opinions sont légitimes, y compris de savoir ce que cette personne qui était sous le coup d'une OQTF faisait ici. Ce que j'ai dénoncé, c'est que tout à l'heure...
C'est la façon dont ça a été récupéré.
M. Ferjou a dit « je ne suis pas qualifié » parce que surplombe sur tout le reste l'émotion. Et là, en l'occurrence, il y a eu sans doute une émotion très forte des familles.
François,
et
vraiment qu'on avance.
Et une instrumentalisation réelle. Donc c'est une question de mesure.
Messieurs, j'ai besoin qu'on conclue ce sujet rapidement.
La grande différence quand même entre l'affaire Émile et l'affaire Lola, c'est qu'on est dans le cadre d'Émile face à un fait divers atroce. On ne sait pas quelles sont les conséquences.
On ne sait pas.
Dans l'affaire Lola, bien évidemment, que c'est un fait de société.
Bon, il va falloir que la justice passe et qu'on l'espère pour cette famille déchirée, pour ce papa auquel on pense également qui est décédé. Donc il y a peu de temps que la vérité sur cette affaire éclate. Autre constat alarmant pour poursuivre ce soir info, les Français ne se sentent pas en sécurité. Sondage Odoxa pour le Figaro, plus de 9 Français sur 10 trouvent que l'insécurité gagne du terrain en France. Au-delà de cette écrasante majorité, 82% des sondés se disent en accord avec l'expression utilisée par le ministre de l'Intérieur en juillet 2020, lorsqu'il parlait de l'ensauvagement d'une partie de la société française. Les conclusions de ce sondage avec Augustin Donadieu, et là encore, on fait un tour de table.
L'insécurité, l'une des préoccupations des Français qui s'amplifie jour après jour. Selon la dernière étude fiduciale Odoxa pour le Figaro, 92% d'entre eux jugent en effet que l'insécurité gagne du terrain ces dernières années dans l'Hexagone.
Je pense qu'il y en a plus qu'à l'âge de nos parents. Moi, quand je parle avec eux de la vie à Paris aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a plus d'insécurité qu'on le ressent.
Les femmes que je connais dans mon entourage, mes amis, etc., elles me racontent qu'elles ont quand même vachement peur le soir. Et plus maintenant qu'il y a 3-4 ans.
Selon cette étude, l'insécurité dans le pays aurait une répercussion directe sur la vie quotidienne des Français. 56% disent en avoir souffert personnellement et plus de 6 habitants de grandes villes sur 10 avouent ne plus être rassurés dans la rue.
Je me suis fait embêter ou virtuellement agresser en sortant le chien tout simplement. Donc quand je sors le chien le soir, oui, à plusieurs reprises, je me suis senti en insécurité.
Alors pour faire face à ce phénomène, 30% des Français ont eux-mêmes organisé leur protection au quotidien, comme l'explique Éric Henry, délégué national Alliance Police.
Cette réalité, il faut la prendre en compte, parce que sinon on va vers une fracturation abyssale de la société française.
Malgré les reconquêtes républicaines promises par les différents ministres de l'Intérieur, plus de 7 Français sur 10 ne croient pas que le gouvernement puisse assurer leur sécurité face à la délinquance.
Il y a beaucoup de chiffres à retenir. Il y en a peut-être deux moi, qui m'ont le plus interpellé. Le premier, c'est 7 Français sur 10. Raphaël Steinville, c'est énorme, qui estime que l'État n'est pas en mesure de les protéger.
Bah,
c'est vrai. Non, mais... Alors je m'adresse à Raphaël Steinville, mais peut-être que vous pouvez entamer si vous voulez.
Bon,
mais...
moi, je peux le laisser à Raphaël Steinville.
Allez, la courtoisie.
Sans problème.
Non, mais la vérité, c'est que personne ne sera étonné par cette succession de chiffres et ces sondages. On commente allègrement jour après jour.
Même les sympathisants LFI, 55%. Et les sympathisants LFI ne se sentent plus en sécurité.
Non, mais d'ailleurs, c'est très intéressant parce que.
Je ne sais pas si on a le détail.
Justement, quand on rentre dans le détail, c'est-à-dire qu'on voit qu'il ne s'agit pas d'un sondage où les gens, parce qu'ils seraient de droite ou parce qu'ils seraient de gauche, viendraient à répondre presque automatiquement, de manière pavlovienne, aux questions qui leur sont posées. Cet ensauvagement, pour reprendre le terme de Gérald Darmanin, il est vécu dans la chair de tous les Français, quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur zone géographique, qu'ils soient urbains ou vivants en province, ils connaissent, ils savent ce que signifie cette hausse, cette augmentation de l'insécurité. Et donc, face à cette insécurité galopante, forcément, les faillites de l'État n'en sont que plus criantes.
Je disais ce chiffre, donc 7 Français sur 10 qui estiment que l'État n'est pas en mesure de les protéger. L'autre chiffre très marquant, je trouve, François Calfon, si vous voulez enchaîner, 30% des Français, se protègent eux-mêmes. Et ça, je trouve que c'est un sacré aveu d'échec pour l'État.
Bon, il faut reprendre les choses.
Parce qu'un Français sur 3. Et quand je dis se protège eux-mêmes, évidemment, pas à l'arme lourde, des bombes lacrymogènes, un canif dans le sac, ou des cours de self-défense, des choses comme ça.
Moi, je manie jamais la langue de bois et j'essaie d'avoir, malgré mes engagements politiques, avec mes engagements politiques, non pas malgré, une lecture lucide.
Très beau lapsus, j'allais dire.
Non, vous savez, on parle dans ce moment d'Darmanin, mais je vous rappelle que moi, j'ai commencé mon engagement politique auprès de Jean-Pierre Chevènement. Et c'est lui qui a créé le terme de sauvageon. Donc, vous voyez, comme quoi il y a une gauche qui...
Vous êtes cohérent, c'est bien.
Depuis toujours, ne regarde pas à côté. Et d'ailleurs, j'ai coutume de dire, parfois ça choque dans ma famille politique, que la première des inégalités subies, c'est l'insécurité dans les quartiers dont on peut parler. Et on voit bien à quel point c'est les habitants eux-mêmes qui en souffrent. Quand vous prenez une balle perdue dans un quartier de Marseille comme cette étudiante, on ne peut pas dire que on doit détourner le regard au nom d'une vision finalement qui serait trop naïve.
Je parlais d'un aveu d'échec pour l'État de voir que presque 3 Français sur 10 ont eux-mêmes organisé leur protection.
Finalement, finalement, j'ai répondu à une digression sur Sauvageon. L'aveu d'échec, oui. Oui, sur, par exemple, ce qui est en train de se passer sur la transformation du trafic de drogue en narcotrafic. 50 homicides à Marseille, bah, c'est un échec. Sur et quand on passée. Voit la comédie du XXL Place Net, etc., il me semble quand même que l'État
dites
devrait
pas comédie,
avoir...
Dites pas comédie.
Ah non, pour moi, c'est
parce que
la
je pense que les, j'ai entendu sur les riverains qui sont dans ces quartiers où il y a ces Place Net, ils sont bien contents non, que ça se passe. Moi, ne les méprisez pas non plus.
Je vais citer M. Pechnard, vous voyez, comme quoi je suis œcuménique.
Il dit qu'on va entendre dans deux secondes juste après.
Vous allez entendre, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quelque chose de très simple avec Sonia Mamarouk.
Oui, ce matin, dans la grande interview.
Il dit une chose très simple. Il dit on peut parler de tout. On peut parler de toutes les opérations CRS, BAC, etc. Il dit tant qu'on ne touchera pas à la tête de réseaux qui sont des réseaux de narcotrafic, on a basculé dans un autre monde, alors tant qu'on n'a pas coupé la tête. D'ailleurs, on a ubérisé le meurtre. Maintenant, on paye pour, je crois, 15 000 euros quelqu'un qu'on recrute sur Telegram pour aller commettre un meurtre à Marseille. Eh bien, tant que vous ne touchez pas la tête, vous ne touchez pas au narcotrafic. Or, face à ce narcotrafic, c'est pas les mots de la gauche, mais c'est mes mots à moi. Et j'entends que M. Pechnard dit la même chose.
On si va vous... rappeler quand même que M. Pechnard est l'ancien patron de la police nationale.
Sarkozyste, élu conseiller régional auprès de...
Pour nos téléspectateurs.
Auprès de Mme Pécresse. Il dit une vérité. Il dit, si vous supprimez, comme c'est le cas sous ce gouvernement, les moyens de la police judiciaire, alors que ce narcotrafic est maintenant dirigé soit depuis les prisons, soit depuis l'étranger, eh bien, vous avez une pieuvre, comme on a dit en Sicile, qui renaît à chaque fois avec ses tentacules. Voilà.
Et vous avez raison d'invoquer le trafic de drogue, parce que c'est un crime ou délit sur quatre dans ce pays et à l'origine du trafic de drogue. Mais là, c'est vraiment l'insécurité dans sa globalité, les agressions sexuelles, les incivilités, les
mexicanisations de villes entières. Eh ben, de l'Europe occidentale, vous passez au tiers-monde.
Dominique Pechnard, ce matin, justement, face à Sonia Mabrouk, pardonnez-moi, qui évoque ces augmentations de violence.
Quand vous prenez l'année 2023, qui a fait l'objet d'un... Enfin, on a à peu près tout ce qu'il faut sur l'année 2023 par rapport à 2022, vous apercevez une augmentation de toutes les violences. Voilà, une augmentation des homicides et des tentatives d'homicide, une augmentation des coups et blessures volontaires, une augmentation des violences sexuelles. Il y a même d'ailleurs une augmentation... Les cambriolages. Il faut parler du sentiment d'insécurité parce que il y a des gens qui ont ce sentiment d'insécurité. Je pense notamment à des gens qui prennent le métro le soir ou on s'intéresse évidemment beaucoup à la région, à tout ce qui est en transport en commun. Il faut prendre en compte ce sentiment d'insécurité. Mais là, ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité et réalité qui est donnée par les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur.
C'est à se demander comment et surtout pourquoi on en est arrivé là, Nathan Devers.
Moi, déjà, je pense pas qu'il y ait des questions qui soient de gauche ou de droite. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure
certains le pensent, hein.
Avec ou malgré les engagements politiques. Je ne pense pas que la question de l'insécurité, il faille être de gauche pour ne pas s'en inquiéter et de droite pour s'en inquiéter, comme si la droite avait le monopole de ce sujet. Deuxièmement, il me semble que on peut faire un diagnostic. Estimer que, en effet, les insécurités sur tel ou tel type de violence a augmenté de X% sur les 5 dernières années, tel ou tel autre a un peu diminué, etc. On fait ce diagnostic-là. Ensuite, là où il va y avoir des divergences, c'est dans les solutions. Et c'est pas parce qu'on constate, et on est tous d'accord pour dire qu'il y a un problème d'insécurité, c'est pas parce qu'on fait ce constat que ça doit nécessairement...
Pour trouver des solutions, il faudrait qu'on s'entende tous sur les causes. Il faudrait qu'on s'entende tous sur les causes. De qui est-ce l'échec? De qui est-ce l'échec? Est-ce que ce lien tout trouvé pour beaucoup qui est lié avec l'immigration et le bon, les chiffres semblent le montrer aussi.
Mais c'est là qu'on sera peut-être pas d'accord, justement. Je pense que déjà...
C'est factuel.
Si on fait ce constat, ça ne doit pas nécessairement appeler à des mesures liberticides, répressives. C'est pas la seule solution, la seule manière de lutter contre l'insécurité.
Exemple, la légalisation du cannabis.
Rester sur l'exemple de la drogue. La drogue, vous l'avez dit, c'est une délinquance qu'on peut facilement identifier et essayer de faire diminuer parce que c'est une délinquance structurelle. C'est pas le fait d'individus isolés qui font des horreurs ou des violences dans la rue. C'est des gens qui, en groupe, sont structurés pour générer de la violence. Vous avez en France à peu près 5 millions de consommateurs réguliers de drogue, notamment de cannabis. Ces gens-là, quel que soit le durcissement de la législation, n'arrêteront pas de consommer du cannabis. Peut-être une toute petite partie d'entre eux.
En tout cas, c'est l'échec.
Mais la plupart d'entre eux.
La France est le pays d'Europe qui consomme le plus de cannabis.
Si vous regardez.
Ah, mais on peut faire cette diversion à travers les narcotrafics, qui est un sujet central.
Dépénalise. L'Espagne autorise. Le Portugal.
Oui, mais vous vous concentrez uniquement sur le trafic de drogue et je vous parle d'une insécurité globale.
Interdit, pardon, mais Malte autorise.
Non, mais c'est pas une diversion.
Pas en même temps.
Non, mais quand même, c'est pas une diversion le trafic de drogue.
Non, je dis pas ça. Je dis juste que je parle de l'insécurité globale.
Mais d'accord, mais les homicides, c'est pas rien. Le retour des
des homicides. Oui, mais... Et pardon, moi j'étais extrêmement choqué.
Oui, mais c'est pas ça que les gens vivent au quotidien.
Bah, si. Non,
moi je suis d'accord avec Julien, je crois pas que l'insécurité à laquelle font référence les Français là.
C'est les jeunes femmes qui se font agresser dans le métro dont on parle. C'est pas les règlements de compte à Marseille.
Ça ne se pose pas, évidemment qu'il y a
cette réalité. Non, moi je ne pose pas, mais.
Évidemment qu'il y a cette réalité, qu'il y a cette réalité-là liée à l'augmentation des trafics de drogue, mais c'est tout le reste aussi. Et quand même, pour une démocratie, les statistiques sont curieusement parfois tripatouillées, pour dire le mot.
Elles l'ont toujours été.
Regarde...
Oui, parlez vraiment, monsieur Ferjou. Le ministère de l'Intérieur a toujours eu des statistiques.
Pas l'inverse, mais voilà. Pas toujours avec la même réalité derrière. C'est-à-dire que il y a encore plus de tentations à tripatouiller quand les chiffres sont mauvais.
Ah, ça serait, mais voilà.
Où ils sont moins mauvais. Parce que quand vous regardez sur les cambriolages, par exemple, c'est découpé en tellement de catégories différentes que ça n'a quasiment plus aucun sens de commenter les chiffres que nous regardons. De deux, regardez sur les attaques au couteau. Sur les attaques au couteau, les derniers chiffres dont nous bénéficions, ils datent d'il y a 5 ans, me semble-t-il. Comment, pourquoi n'avons-nous pas justement des chiffres plus récents? Parce que c'est aussi ça une démocratie, c'est aussi ça le rôle d'un Parlement, c'est de demander la réalité des chiffres. Même chose sur l'Observatoire de la réponse pénale, c'était prévu dans le Beauvau de la sécurité. Est-ce que vous avez un observatoire de la réponse pénale? Parce que la justice finit toujours par être sévère en France, mais elle finit par être sévère en bout de chaîne, alors que on sait justement par l'expérience de beaucoup de pays étrangers que c'est en intervenant plus tôt et en étant sévère plus tôt qu'on parvient à endiguer la montée de l'insécurité. Dernière chose sur la drogue, mais c'est un débat qui est autant, à mon sens d'ailleurs, plus un débat de santé publique qu'un débat d'insécurité. Oui, mais enfin, regardons ce qui s'est passé. La légalisation, ça n'a pas permis aux Pays-Bas de se débarrasser des narcomafias, et pourtant ça fait très longtemps que le cannabis y est dépénalisé. La légalisation
aux États-Unis, il lui fallu le légaliser.
La légalisation aux États-Unis, elle n'a absolument pas mené à une baisse des trafics, mais a mené au contraire à l'augmentation des trafics. Donc c'est une question qui est infiniment plus compliquée. Moi, je suis d'accord pour mettre toutes les questions sur la table, a fortiori pour que des instances démocratiques en débattent. Mais faisons attention à ce qu'on dit, parce que malheureusement, ceux qui se sont aventurés sur ce chemin-là s'en sont plutôt mordus les doigts.
Je voudrais qu'on entende avant la pause JT Actu Driss Ghali, l'essayiste, qui livrait son analyse sur une forme de deux poids, deux mesures concernant la délinquance des immigrés.
L'État ne veut pas, c'est pas qu'il ne peut pas, pendant le Covid, il s'est tout permis. Il ne veut pas punir l'ultra-violence de certains, au nom de la lutte contre la xénophobie, au nom des inégalités, au nom de la bureaucratie, parce qu'il n'y a pas de bureaucratie quand on veut coffrer les militants d'ultra-droite ou de droite à Crépol, à Romain. Là, on leur met un an en ferme. Là, il n'y a pas de bureaucratie, il n'y a pas de droit de l'homme. Et on nous dit, il y a aussi une autre légende urbaine, on nous dit les psychopathes, on nous dit les fous. Moi, je n'ai jamais vu un fou attaquer un point de deal à Marseille, parce qu'il sait qu'il sera reçu à la Kalachnikov. Vous voyez, on nous a créé des espèces d'illusions pour nous culpabiliser. Nous ne sommes pas des sauvages, c'est le gouvernement qui relâche les sauvages et vide les prisons pour déstabiliser la société. C'est très grave, c'est vraiment un crime contre les Français.
Est-ce qu'on crée une forme d'illusion, pour reprendre les termes de Driss Ghali, Raphaël ?
Ils prennent des dingues.
Messieurs, s'il vous plaît, on est en direct, c'est pas le salon de thé, là.
Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les Français sont là de voir que rien ne va plus, que l'insécurité augmente, et que l'État, en dépit d'un certain nombre d'effets de communication, d'opérations menées à grand renfort de communication et certes de moyens, est bien impuissant à régler les problèmes, parce qu'il ne s'attaque pas à des problèmes qui sont notamment ceux de l'immigration. Et je pense que c'est ça qu'il voulait souligner par cette intervention.
Après, on continue.
23h30, pile, on va se retrouver dans un instant. Le temps du rappel de l'actualité, l'essentiel. Maureen Vidal.
La cause du décès d'Émile reste inexpliquée. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence s'est exprimé en fin d'après-midi. Les vêtements que portait le petit garçon au moment de sa disparition ont été retrouvés. Des traces de morsures et des fractures post-mortem ont été constatées sur le crâne du petit garçon. Les recherches se poursuivent dans le Haut-Vernay. L'Iran jure de riposter au raid imputé à Israël sur son consulat à Damas. Une attaque inédite condamnée par plusieurs pays et qui accroît les tensions au Moyen-Orient. Hier, 6 missiles ont été tirés et ont détruit le bâtiment abritant le consulat et la résidence de l'ambassadeur iranien, faisant 13 morts, 6 Syriens et 7 Iraniens, selon la télévision d'État. Enfin, retour à Paris, rue de Verneuil, pour les 96 ans de la naissance de Serge Gainsbourg. Sa fille Charlotte et la ministre de la Culture, Rachida Dati, ont dévoilé la plaque Maison des Illustres sur cet hôtel particulier, transformé en musée depuis quelques mois.
Je m'installe un petit peu. Pardon, je réparais l'imprimante, Maureen, donc je peux pas être partout. Merci, chère Maureen, et très bonne soirée à vous. C'est un événement, car beaucoup l'attendaient depuis près de 3 ans et demi désormais. Et cet effroyable attentat terroriste qui a causé la mort de Samuel Paty, pour la première fois, on l'a appris aujourd'hui, un lycée va porter le nom du professeur assassiné. Annonce faite aujourd'hui par la présidente de la région Île-de-France, en l'occurrence Valérie Pécresse. Lisez avec moi ce que déclare l'ancienne candidate à l'élection présidentielle, fauchée par la barbarie islamiste parce qu'il éveillait les consciences et développait l'esprit critique de futurs citoyens. Samuel Paty, héros tranquille, est devenu un visage de la République. Pour lui rendre hommage et réaffirmer le soutien de la région à l'ensemble de la communauté éducative, j'ai décidé, en accord avec le maire, que le futur lycée Montévrin, dans le 77, donc en Seine-et-Marne, porterait le nom de Samuel Paty. Jean-Sébastien, enfin, mieux vaut tard que jamais, pourrait-on dire ?
Oui, puisqu'on sait que certains établissements y avaient songé, ou certaines communes y avaient songé avant d'y renoncer pour des raisons de sécurité. On peut comprendre l'inquiétude des familles, sauf que, évidemment, ça correspond à un recul de la République et que la meilleure réponse dans ces cas-là est y aller de manière massive. C'est plutôt justement en assumant tous qu'il faut résister à la pression des islamistes. Donc oui, c'est une bonne chose de le faire. Après, puisqu'on parle de Samuel Paty, moi j'étais un peu surpris d'entendre ce matin Madame Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale, répondre.
Alors on va y arriver tout de suite.
Qu'elle considérait que l'État n'avait aucune responsabilité.
On va y arriver dans une minute. Je voudrais juste faire un ou deux petits commentaires
parce que ça me paraît vraiment.
C'est primordial et on y vient tout de suite. Je voulais juste qu'on entame avec cette information qui est tombée dans l'après-midi. Moi, la première chose que je me suis dit, enfin la première chose, ça fait longtemps que beaucoup y pensent, mais on aurait quand même pu commencer. Et je sais, et chacun sait pourquoi ça n'a pas été fait, pour une forme de pas de vague, de peur. Compréhensible, notamment pour le corps enseignant, mais on aurait quand même, le signal aurait été tellement fort de commencer par le lycée de Conflans-Sainte-Honorine où il a été assassiné.
Bien sûr.
Et en le nommant lycée ou collège, d'ailleurs je ne sais plus si c'est un collège ou un lycée,
un collège,
pardonnez-moi, de le nommer dans un premier temps Samuel Paty. Mais bon, c'est une initiative qu'on doit saluer, celle de Valérie Pécresse et du maire de cette ville de Seine-et-Marne.
Oui, vous avez totalement raison. Mais c'est une initiative qu'il faut saluer. On en félicite tous les acteurs.
Ça va dans le sens d'une forme de pas de vague permanent.
Mais ça fait 3 ans, hein, c'est ça.
Ouais, 3 ans et demi. C'était en octobre 2020, si ma mémoire ne me joue pas de tour.
Bien sûr, mettre 3 années pour avoir cet acte. De changer le nom d'un collège, c'est pas non plus une opération administrative si difficile que ça que de changer le nom d'un collège, même s'il faut s'en réjouir, je trouve que c'est navrant. Je trouve que c'est navrant qu'on n'ait pas, dès le lendemain ou le surlendemain de sa mort, décidé, par exemple, de prendre le lycée de Conflans-Sainte-Honorine où il enseignait.
Mais je crois que la communauté éducative n'était pas forcément pour, parce qu'il y a une peur compréhensible.
Justement, j'aimerais
aussi
citer une chose. Quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, que 2 jours plus tard, il se passe les attentats de l'hypercachère. On est dans un contexte sécuritaire archi dangereux. Que décide à l'époque l'Élysée ? D'organiser une manifestation, une marche
extrêmement du 11 janvier.
Difficile sur le plan sécuritaire, avec 44 chefs d'État, avec des millions de Français dans les rues. Si on écoutait la voie sécuritaire, la voie du danger, on aurait dit, ah mais attendez, c'est pas possible, attendons 3 ou 4 ans pour faire cette marche-là. Et ça avait été la grandeur, il faut le dire, des acteurs, mais notamment de François Hollande, que d'estimer que le symbole de puissance républicaine, le symbole de puissance démocratique, passait avant la prudence sécuritaire. Alors évidemment,
ils avaient
mis...
C'est comparable quand même, parce que c'était une marche, une journée, là il s'agit d'assurer la sécurité.
Non mais moi je prendre des mesures de sécurité supplémentaires.
Mais c'est le vrai sujet, il est là. Moi, je trouve que c'est une comparaison qui n'a pas beaucoup de sens parce qu'encore une fois, il s'agissait d'assurer la sécurité d'une journée. Là, le sujet qui se pose, c'est pourquoi les gens ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ont l'impression que l'État n'est pas capable d'assurer la sécurité d'établissements scolaires qui s'appelle d'ailleurs Samuel Paty.
Mais dans ce cas-là, on met des policiers tous les jours.
Mais le vrai débat, c'est celui-là.
C'est ça qu'on souhaite.
Le vrai débat, c'est celui-là.
Juste, le point pour moi, c'est qu'on ne devrait pas en faire un objet de polémique. C'est bien qu'il y ait un lien.
Non, mais la polémique, c'est qu'il a fallu attendre 3 ans et demi pour qu'on ait un appel à un lycée Samuel Paty.
Pourquoi?
pas de vague.
C'est un objet. Non, c'est pas une question.
Bah si, vous l'avez vu encore dans l'affaire du lycée Maurice Ravel. Pardon, François.
Je peux essayer de parler quand
oui,
même.
Vous faites que ça.
Non, bah alors je vais essayer de développer un argument.
Allez-y.
Parce que là, en l'occurrence, j'ai pas pu le développer. Précisément pour les raisons que vous citez. C'est-à-dire que c'est un combat du quotidien. C'est un combat qui est devant nous. Et moi, je pense à la communauté scolaire. Donc le fait que, finalement, on nomme ce lycée, peut-être trop tardivement, Samuel Paty, que ce soit M. Robache, le maire de Montévrin ou Mme Pécresse, peu importe, c'est un, moi, je le vois d'abord comme un appui, parce que quand je vois la photo de Samuel Paty, aux enseignants qui, tous les jours, c'est un soutien aux enseignants, qui, tous les jours, subissent, finalement, des attaques à la laïcité. On l'a vu sur le lycée Maurice Ravel. Pardon, mais je pense aussi à cet enseignant qui a été assassiné
dans
le Pas-de-Calais, hein, je crois. Dominique Bernard, parce que je n'avais pas son nom, vous faites bien de le citer. Et donc, je crois que faire corps, c'est pas la manifestation de François Hollande.
Mais paradoxalement, plateau, François...
Quelque part être capable de dépasser nos différences pour dire nous tous ensemble, vous journalistes, commentateurs, hommes politiques, philosophes, nous faisons corps.
Ce qui...
Et ça, je crois que c'est ça.
C'est ce qui me fait peur.
L'éducation nationale... pour autant, hein.
Non, mais est-ce que l'éducation nationale fait peur? Parce que ce que disait la sœur de Samuel Paty, notamment, c'est ce qu'il a vécu aussi. Et quand on entend...
Bon, alors je vais
c'est
lancer... vrai, mais tant mieux qu'il
non, non, mais quand on entend. Non, mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que quand on entend un certain nombre de professeurs, la menace ou la pression, elle ne vient pas que des islamistes, elle vient parfois de l'intérieur des
mais
établissements
c'est pourquoi,
scolaires.
Je pense que
quand
c'est bien,
certains enseignants... Oui, je suis bien d'accord avec vous qu'il faut les soutenir, mais il faut les soutenir en interne contre la partie du corps enseignant qui c'est considère vrai. Que la laïcité est une question de facho. Parce que ça, c'est une réalité
et
aussi dans la sociologie de l'éducation.
Est-ce qu'on
nationale.
Peut se dire également, il ne faut pas le souhaiter, hein. D'ailleurs, ce lycée n'est pas encore construit, donc ça va prendre du temps, hein, avant qu'il prenne vie et qu'il porte ce nom. Mais je me dis qu'il y a peut-être des profs, des personnels qui ne vont pas assumer d'aller travailler dans un collège ou dans un lycée Samuel Paty, qui auront peut-être la peur au ventre également de se dire, on s'appelle Samuel Paty, donc on va être ciblé par ceux qui veulent nous terroriser. Alors Raphaël n'a rien dit encore.
Ouais, mais vous avez raison de poser cette question, que c'est une possibilité et on l'a vu avant qu'un lycée ne soit baptisé du nom de Samuel Paty, des lycées ou des municipalités à qui on en est proposé de donner le nom du colonel Arnaud Beltrame hésitaient face aux pressions, aux risques que ce nom ferait porter face à une communauté islamiste qui aurait vécu ça comme une injure. C'est vous dire quand même l'état de fracturation parfois de la société et les risques...
Enfin, l'état de lâcheté des élites surtout, parce que la société est moins fracturée.
Mais vous avez raison, j'allais compléter ça par ce que vous venez de dire, et la lâcheté de nos élites.
La ministre, je viens vers vous tout de suite Nathan, mais je voudrais qu'on avance parce que c'est vrai que Jean-Sébastien l'a évoqué au tout début de cette thématique. La ministre de l'Éducation nationale a donc estimé aujourd'hui que l'État n'avait aucune responsabilité dans la mort de Samuel Paty. Elle a répondu indirectement à la sœur du professeur Paty qui estimait il y a quelques temps que son frère avait été abandonné par l'État au moment où les menaces planaient sur lui. Écoutez cet échange à distance. D'abord, pour mémoire, ce que disait Michaël Paty et les mots de Nicole Belloubet ce matin.
Le 3 décembre 2020, à la lecture du rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Ce rapport s'intitule avec une sobriété forcée et anonyme « Enquête sur les événements survenus au collège du Bois d'Aulne, Conflans-Sainte-Honorine ». Retirant à mon frère la plus simple dignité, celle que cette enquête soit menée en son nom. Ici, on parle de gérer un trouble, l'origine du trouble étant le cours sur la liberté d'expression de Samuel Paty. La formulation choisie trahit l'intention véritable de ce travail. Il s'agit non de faire la lumière sur les responsabilités et les éventuelles erreurs des uns et des autres dans cette affaire, mais avant tout de dédouaner l'institution de toute responsabilité éventuelle.
Il y a sans doute des choses qui auraient pu être mieux faites. Pour autant, je ne suis pas certaine que l'on puisse dire que l'État a une part de responsabilité dans l'assassinat de Samuel Paty. Mais cet assassinat terroriste qui a beaucoup marqué a été un électrochoc pour l'État. Cela nous a conduit à... avoir la fermeté dont je témoigne ici et dont mes prédécesseurs ont également témoigné, à remettre en place des procédures de sécurité auprès de nos équipes éducatives. Il est mort d'un assassinat terroriste. Et que, certes, je le redis devant vous, il y a des choses qui auraient pu être mieux faites. Mais il me semble difficile de considérer que l'État a une part de responsabilité dans cet assassinat terroriste.
Jean-Sébastien, vous aviez donc évoqué ce thème il y a 5 minutes. La ministre, dédouane un petit peu facilement l'État. C'est un peu violent, voire indécent pour les proches du professeur.
C'est indécent. Bien sûr que la responsabilité première, c'est une évidence absolue, et celle des terroristes, et celle des islamistes, et celle de la jeune fille qui avait commencé par mentir, et celle de sa famille qui a instrumentalisé les faits, de son père qui l'a porté sur les réseaux sociaux. Évidemment que toutes ces responsabilités-là sont accablantes, mais enfin, ça n'empêche pas que le trouble et les menaces, elles étaient avérées et que l'État s'est montré impuissant à protéger Samuel Paty, comme malheureusement il se montre impuissant à protéger beaucoup d'autres enseignants ou beaucoup d'autres dirigeants d'établissements, même s'ils ne sont pas confrontés tous à la même intensité de menaces, ou en tout cas que, évidemment, et c'est heureux, les menaces ne se sont pas traduites par des drames. Mais je ne sais pas, mais Mme Belloubet, je ne comprends pas de toute façon le choix de Mme Belloubet comme ministre de l'Éducation nationale.
Dans ce pays, personne n'est jamais responsable de rien.
Je crois que d'autres qu'elle sont capables de porter une parole beaucoup plus claire. Madame Belloubet, elle a un sujet, elle a un problème avec la laïcité. C'est pas compliqué. Elle avait quasiment rétabli le délit de blasphème en considérant que la jeune Mila, avait tenu des propos, mais oui, bien sûr, qui étaient pas recommandables sur l'islam.
Grossier.
Pour autant, ça ne mérite pas des menaces de mort et ça ne mérite pas de vivre sous protection policière. Donc je pense que Mme Belloubet a un problème avec la pression islamiste et qu'elle doit faire partie des gens qui s'imaginent que si on fait semblant de ne pas voir le problème, il va finir par disparaître.
Les coupables sont les islamistes. Jean-Sébastien l'a rappelé, mais la culpabilité n'exclut pas une autre forme de responsabilité. Peut-être que Mme Belloubet, je vais y arriver, c'est la fin de soirée, aurait pu assumer un petit peu plus les failles de l'État dans cette affaire.
Alors, je suis désolé, je suis en désaccord partiel. Sur l'affaire Samuel Paty, je suis d'accord. Il y a eu un dysfonctionnement grave, et de toutes les manières, au vu de la manière dont les choses se sont finies, on ne peut pas estimer que personne n'a rien à se reprocher. En revanche, dire que l'État reste impuissant, c'est pas vrai. Regardez dans l'histoire du lycée Maurice Ravel, l'État a tiré parfaitement, il faut le dire, hein, parce que si quand l'État réagit correctement, on dit qu'il
Nathan, je peux me permettre de vous donner un exemple concret, vous répondrez derrière si l'État fonctionne ou pas. Donc une jeune fille dans une cour d'établissement scolaire, en France, dans un département, dans une petite ville, elle voit un camarade qui montre des vidéos de décapitation de Daesh. Elle lui dit, non, c'est quand même pas bien de le faire, etc. Que se passe-t-il? Elle est victime de harcèlement. Elle est obligée de quitter l'établissement. Aucun soutien de l'inspection académique, aucun soutien du rectorat. Et que s'est-il passé à l'arrivée? Sa famille a dû quitter la ville parce que comme c'était une petite ville, il n'était plus possible qu'il y réside. Ça, c'est aussi la France aujourd'hui.
Les faits que vous dénoncez sont graves.
Ravel est parti.
Donc c'est un échec.
Il devrait être en poste encore aujourd'hui,
monsieur. C'est évident. Je ne dis pas que tout va bien au lycée Maurice Ravel. Je dis juste que la réaction de l'État par rapport aux événements gravissimes qui se sont passés, a été à la hauteur. Non. Ensuite, le proviseur a décidé de partir, et c'est pas à cause de l'État, c'est parce qu'il y avait une pression islamiste contre lui. La deuxième chose que j'aimerais dire, sur la question, vous avez parlé de la laïcité. Je pense qu'il faut vraiment pas confondre deux choses, parce que c'est un débat qui ne doit pas souffrir à peu près. Premièrement, on a le droit, en France, d'avoir un regard critique sur des lois. On a le droit d'avoir un regard critique sur la loi de 1905, ou sur les lois actuelles.
Oui, mais on n'a pas le droit de l'enfreindre.
Valérie Pécresse, elle-même, il y a eu une époque, en 2017 encore, où elle était favorable au rétablissement du concordat et elle estimait que le fonctionnement de la laïcité actuelle était un fonctionnement qui était hostile aux religions en général, dont l'islam, mais les religions en général. On a le droit d'avoir ce débat. Si certains membres du corps pédagogique...
Mais là, on sort du cadre. On se demande s'il y a une responsabilité de l'État dans la mort de Samuel Paty d'être victime de menaces de mort.
J'aimerais juste finir mon argument très vite. Et ça, on ne doit pas le confondre avec la complaisance qui est en effet scandaleuse quand il y a des faits de fanatisme. Et de la même manière sur Mila, on a le droit de ne pas trouver que les analyses de Mila sur le fait religieux soient passionnantes quand elle dit qu'elle veut faire du mal à son Dieu. Et en revanche, estimer que les menaces de mort dont elle a été victime sont absolument scandaleuses et injustifiables.
Dernier mot, François Calvez.
Le mot, c'est plus simple, c'est que moi je pense qu'un ministre en exercice avec ses fonctionnaires qui sont les enseignants, qui est une mission quasiment aussi régalienne que les policier, il a un devoir de protection quasiment absolu. Et que le signal, alors qu'il y a des entorses à la laïcité, alors que le pas de vague existe quand même, ça, on ne peut pas dire le contraire, eh bien, quelque part, l'État, en la personne du ministre, doit être dans la protection absolue des enseignants, et tout message qui est un petit peu trouble, ce qui a été le cas de Madame Belloubet, même si il est moins scandaleux que ce que je pensais à l'énoncer, est un message contre-productif.
Bon. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir autour des grands thèmes d'actualité. Avant de vous quitter, comme chaque soir, un point sur les quotidiens que vous pourrez trouver en kiosque demain matin, à commencer par le Figaro qui titre sur Paris, Rachida Dati en position de force face à Hidalgo. C'est vrai que les sondages se succèdent ces derniers jours, et Rachida Dati est en pole position pour les prochaines municipales de 2026. Ça vous évoque quelque chose, Raphaël, en un mot ?
Non, c'est pas vraiment une surprise. Ça a été déjà le cas dans un précédent sondage où Rachida Dati faisait largement la course en tête, et elle faisait même mieux que Gabriel Attal, qui était également testé face à Anne Hidalgo. Je pense que le bilan, les 10 ans d'Anne Hidalgo à la tête de Paris, explique en grande partie le score qui.
Bah oui, l'artillerie des voitures là où
il y avait des voitures urbaines. On avance avec le Parisien aujourd'hui en France, les mystères autour de la mort d'Émile, évidemment, la plupart des quotidiens. Pardon, hein, je vous coupe la chic comme on dit, mais. Et là, il faut vraiment rendre à l'heure, me dit-on dans l'oreille. Donc, on enchaîne avec les échos, l'assurance des pistes choc face aux risques climatiques. On pourra lire dans le quotidien financier. Les presses quotidiennes régionales avec la fibre, la galère des oubliés du très haut débit. Il y en a encore dans ce pays en 2024. Var matin, Michel Sardou dans le Var, c'est fait. Ben, j'espère que vous êtes régalé. Émile, évidemment, à la une de Var matin. Les dernières nouvelles d'Alsace, attentat de Strasbourg, 30 ans requis contre Audrey Mangei, on pourra lire ça bien sûr aussi dans les DNA. Et puis une dernière presse régionale avec l'Indépendant catalan. Ouais, chargé la une de l'Indépendant. Hein. Faudrait peut-être revoir la maquette, les amis. Hein. La fièvre catalane grippe la billetterie de Montpellier. Peut-on notamment lire ? Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis. Martin Mazur dans l'oreille, évidemment, comme chaque soir. Maxime Fer, Céline Génaud, Coralie Delaplace. Je pourrais citer toute la rédaction à ce rythme-là. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. L'édition de la nuit avec Simon Guilin. On se retrouve demain, mercredi, pour Soir Info. Bonne nuit.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.